Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne en direct jusqu'à midi. Alors ce matin Julia, quel sera notre grand dossier du jour?
Alors puisque nous avons la chance ce matin d'être en direct du tournoi de Roland-Garros dont Europe 1 est la radio officielle, on va parler d'activité physique et de sport. D'autant qu'à l'approche de l'été, on a tous envie de rechausser un peu les baskets, de retrouver la forme. Alors le problème, c'est qu'une blessure est si vite arrivé, on va vous dire aujourd'hui comment faire du sport sans se faire mal et surtout sans perdre sa motivation. Et pour en parler, nous recevrons Florian Patalagoiti, il est kinésithérapeute du sport et ostéopathe, ainsi que le docteur Thomas Mamou, médecin du sport.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance, ses bons plans, ses activités en vogue, dénichées par nos chroniqueurs. Tout d'abord, Soizic Belin, elle aussi d'humeur sportive, a testé pour nous un loisir qui a le vent en poupe, le surf indoor, le surf en intérieur. Et puis on écoutera aussi les conseils mode de Sophie Braffman. Elle aussi, elle a été inspirée par la petite balle jaune. Elle nous propose ce matin ses astuces pour un look tennis, même en ville. Bien fait pour vous. C'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Alors notre question du jour, la voici. Faire du sport, oui, mais sans se blesser, c'est mieux, n'est-ce pas Mélanie? Car se bouger, c'est excellent pour la santé. Mais n'oublions pas que les blessures sont fréquentes et c'est donc ce que l'on va tenter d'éviter aujourd'hui. Et avant d'écouter les conseils avisés de nos experts, on va d'abord se tourner vers le sportif de haut niveau de notre équipe pour voir ce que lui, ce qu'il en pense, quoi. C'est Clément Lanoux, bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, merci de vous tourner vers des professionnels. Effectivement, vous croyez pas si bien dire, Julia. J'ai fait 10 heures de sport ce week-end. Il y a eu le Grand Prix de Monaco, la finale du rugby, la finale de la Champions League. Je me mets 10 sur 10 en sport. Et c'est la question que j'ai posée aux Français en me promenant dans la rue. Vous pourrez répondre aussi. Vous vous mettez combien de 0 à 10 en sport, vous?
8. Vas-y, bah si c'est toi, c'est 8. Vas-y, moi, 11.
10, pour de vrai.
2. Non, je suis un métier physique, donc du coup, mon métier me fatigue déjà beaucoup.
Les mensonges comptent. Non, je dirais 4.
C'est dur hein, de s'auto-juger.
Combien,
Mélanie,
vous,
combien?
Moi, je dirais en ce moment, depuis quelques temps, 3 à peu
3,
près,
voilà. Julien?
Moi, je suis à 12. Hein.
Non, à 12, bravo. Non, mais le plus dur, c'est de se motiver apparemment. Alors, est-ce que le sport est un plaisir ou une souffrance? J'ai posé la question.
Ouais, c'est un plaisir, mais des fois, ça peut être une souffrance.
Un plaisir, mais on a tendance à dire que le sport, c'est comme une drogue. Plus on en fait, plus on devient addictif. Ce qui n'est pas mon cas, donc je ne pousse pas.
C'est mal la drogue.
Drogue, c'est mal, donc évitez de faire du sport. Non, évidemment, on va en parler tout à l'heure. Évitez de vous blesser. Quels sont les sports conseillés, les sports préférés des Français? C'est quoi, vous?
Déjà, je fais de la danse. Après, j'essaie de faire du sport chez moi.
Arrête de mentir.
C'est vrai.
Alors, j'ai assisté à un début d'embrouille. Et vous me connaissez, voilà, en très bon journaliste, je me suis dit, oh là, c'est quoi cet embrouille? On développe.
Parce que en fait, elle fait de la danse, mais il y a de la danse. Elle fait de la danse que quand on a envie de danser. Voilà, donc t'es pas vraiment sportif en ce moment.
Ouais, je suis sportif en vrai.
On parle pas de sportif en vrai, parce que tout le monde peut être sportif en vrai. On te parle de si tu fais du sport. Sportif, c'est-à-dire tu pratiques une activité régulièrement.
Je l'étais, et peut-être je le suis plus, mais voilà. Je garde cet esprit-là, genre.
Voilà.
Merci. Tu te souviens?
Oui.
Voilà, principal sujet d'embrouille, pas dans les coupes, mais entre amis, le sport. Et enfin, ma dernière question, c'est quoi votre CV de sportif, le plus grand exploit de votre carrière? J'ai posé ça à des gens que je croisais dans la rue.
Moi, en rapport avec le tennis, c'est avoir été ramasseur à Roland-Garros.
J'ai pas des grands exploits, hein. Je suis pas Serena Williams.
Non, je pense que ma carrière sportive s'est arrêtée le jour où je suis tombée à saut d'obstacle devant une assemblée pour un concours. Et que là, j'ai dit « ok ». On m'avait donné un poney qui voulait rouler, bah il a roulé devant tout le monde, avec moi sur le dos.
Alors comment ne pas se blesser justement? On a toutes les missions pour y répondre. Le sport, c'est bien, mais ça peut être dangereux. Heureusement, on a fait appel aujourd'hui à des professionnels.
Merci beaucoup Clément Lanoux. On va à présent effectivement se mettre véritablement en mouvement avec détermination mais prudence. Et on va le faire avec vous, Florian Patalagoiti. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute du sport, ostéopathe et l'auteur du livre « Mon programme sport et santé » qui est paru donc chez Larousse. Avec nous également le docteur Thomas Mamou, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes médecin du sport. Florian, je reviens vers vous. On a dit qu'on parlerait notamment de toutes ces blessures aujourd'hui qui peuvent nous tomber dessus. Moi, c'est clairement ça qui m'a arrêté, hein. Sinon je serais une grande sportive aujourd'hui. D'ailleurs, quel est le constat? Les blessures liées au sport, elles sont vraiment très fréquentes. Je ne parle pas chez les athlètes qui sont autour de nous, mais chez monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment quelque chose de très
très fréquent.
Alors j'imagine bien que vous auriez fait une grande carrière de sportif si vous, ça vous était pas tombé dessus. Je pense que quand même le plus important c'est déjà de rappeler les bénéfices du sport qui sont clairement supérieurs au fait de risque de se blesser. Et après dans le sport évidemment il y a plus de chances de se blesser quand on fait du rugby à haut niveau que de la pétanque en loisir. Mais globalement on tient des statistiques très précises. Par exemple dans le sport de haut niveau notre job de médecin, de kiné du sport c'est de prévenir les blessures. Donc on sait exactement où les gens se blessent, à quel niveau, comment, pourquoi. Et on met en place des stratégies pour ça. Mais l'essentiel pour les gens, c'est de se rappeler, en gros, de savoir bien s'écouter et également d'y aller progressivement. C'est les deux gros secrets pour pas se faire mal.
Alors justement, moi, ma question, c'est généralement, les gens se font mal où le plus fréquemment? Je parle du sport amateur. Hein. On se fait mal où quand on fait du sport?
Alors, il y a plusieurs endroits, mais clairement, celui qui arrive en tête de file, en pole position, ça va être l'entorse de cheville.
Ah bah oui.
Voilà, classique.
Fréquent.
Voilà.
Le dos, il prend pas souvent le dos, non?
Le dos, pas mal, mais moins que les articulations, les tendinites au niveau des genoux, par exemple, ou alors...
J'allais dire le genou, hein, parce que moi, j'avais une grande carrière de footing, notamment, à un moment donné, mais le genou m'a tué.
Bah oui, j'imagine, les croisés, hein, on connaît.
Les croisés, j'ai fait les croisés. Docteur Mamou, pourquoi on se blesse généralement au genou ou ailleurs? C'est quoi la fatigue, le stress? On choisit mal ses chaussures? Quelles sont les causes les plus fréquentes de blessures?
En fait, il y a plusieurs causes de blessures. Il y a déjà deux types de populations. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui, quand se remet au sport, souvent, il respecte pas certaines règles, qui sont notamment la progressivité de la reprise. Et puis des fois aussi, il se donne des objectifs qui sont beaucoup trop élevés par rapport à ses compétences.
Genre, je vais faire un marathon avant la fin de l'année, quoi.
Et genre, je vais faire un marathon et je me prépare une semaine avant. Ouais. Et ça arrive tous les ans.
Ça risque pas de vous arriver, ça, Julien.
Non, mais j'adorerais faire un marathon, mais ça se prépare combien de temps avant, par exemple?
En général, on dit que c'est au moins 3 mois, voire un peu plus de préparation avant, pour vraiment respecter cette progressivité et en fait laisser le temps au corps de s'adapter à cet effort, de façon à pouvoir vivre le marathon dans de bonnes conditions et de prendre du plaisir.
Et vous croyez pas aussi que l'équipement a quand même quelque chose d'important? Par exemple, les gens qui se mettent au running et qui ont des mauvaises chaussures, c'est pas terrible ça?
Alors clairement, l'équipement, c'est hyper important. Notamment, nous, chez nos sportifs de haut niveau, on sait qu'il y a des technopathies qui peuvent être liées soit à la gestuelle, soit à l'équipement. Que ce soit, par exemple, au tennis, ça peut être lié aux chaussures, mais ça peut être lié aussi à la raquette, qui peut être à l'origine de douleurs au niveau du membre supérieur. Et donc, du coup, l'équipement a clairement un impact sur les blessures.
Alors justement, qui dit blessure dit souvent douleur, on en a dit déjà quelques mots, mais pour comprendre facilement, Florian, je crois que vous dites qu'il y a plusieurs types de douleurs, et heureusement quand même qu'elles sont là, ces douleurs. Pourquoi ça?
Ouais, bien sûr. En fait, c'est facile à imaginer. C'est-à-dire que c'est le seul signal qu'on a pour montrer qu'il y a une alarme et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends un exemple tout simple. Si vous mettez la main sur une plaque chaude près de votre four, vous allez avoir la main qui va brûler. Si vous n'avez pas de douleur, vous pourrez la laisser jusqu'à ce qu'elle fonde complètement. Donc, du coup, elle est essentielle, cette douleur. On la distingue en 3 catégories. La première, c'est la douleur aiguë, celle qu'on sent. Ensuite, la douleur subaiguë qui va traîner un petit peu. Et ça, c'est le temps que la main cicatrise. Et ensuite, il y a les douleurs chroniques. Celle-là, par contre, c'est problématique. Il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. C'est pas toujours facile.
Bon, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va continuer ce matin à distiller tranquillement, mais énergiquement, tous nos meilleurs conseils pour se bouger, pour vous remettre au sport si c'est votre souhait, mais surtout en évitant les blessures. Nous sommes en direct du tournoi de Roland-Garros, donc aux premières loges pour vous guider efficacement. Je vous le conseille. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on s'interroge autour de cette question. Faire du sport, oui, mais comment éviter de se blesser? On en parle notamment avec le docteur Thomas Mamou, vous êtes médecin du sport. Et avec nous également Florian Patala-Goïti, kinésithérapeute du sport, ostéopathe et l'auteur du livre Mon programme sport et santé chez Larousse. Alors quand on se fait mal, Florian, l'un des moyens de surpasser sa douleur, vous dites, c'est de faire du sport. Alors ça va vraiment m'aider à avoir moins mal, de continuer à souffrir en fait, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous entendez par là? En gros, c'est le mouvement qui va me soigner?
Oui, exactement. En fait, c'est le mouvement qui va soigner. Et c'est vrai que c'est complètement contre-intuitif.
Complètement.
Mais par contre, il y a deux choses qui fonctionnent très bien. La première, évidemment, c'est... En fait, il faut imaginer quelqu'un qui vient de se faire opérer, qui a l'ostéoporose ou même qui s'est fait opérer du cœur. On va lui demander de faire du sport pour remettre le corps en mouvement. Et déjà, au niveau physique, ça va aider à passer la douleur, à faire comprendre au cerveau qu'en fait, la zone va pas si mal que ça.
Même quand on se fait opérer aujourd'hui, parfois, on sort debout, en fait. Hein,
oui, c'est ça, exactement. On sort, on vous donne des béquilles, une attelle, typiquement pour les croisés. On en parlait d'ailleurs.
Oui, c'est
l'heure,
ce que j'ai eu, je vois.
Je sais, l'arrêt de votre carrière.
Mais pas du tout, regardez là où elle se trouve, à Roland-Garros, c'est en direct, Mélanie Gomez. Docteur Mamou, on parle souvent du chaud ou du froid qui peuvent soulager des douleurs. Mais justement, la question c'est quoi? C'est le chaud ou le froid qu'il faut privilégier? Comment on choisit entre les deux? J'imagine que ça dépend de la douleur, non?
Ouais, exactement. En fait, ça dépend de la douleur. On différencie deux types de douleurs. Les douleurs qui sont dites inflammatoires, qui sont des douleurs qui sont lancinantes, pulsatiles. On a l'impression qu'il y a le cœur qui bat un peu dans la zone qui fait mal. Et là, typiquement, il faut imaginer qu'il y a un incendie. Donc, du coup, on met de l'eau, on met du froid.
D'accord.
Donc, de la glace. À l'inverse, on a des douleurs qui sont plutôt mécaniques, articulaires, et qui sont un peu plus chroniques. C'est-à-dire des douleurs qui sont beaucoup moins lancinantes, qui sont un peu en fond douloureux. Et là, on va plutôt mettre au contraire du chaud.
Par exemple, lombalgie, on met du chaud.
Lombalgie, on va mettre plutôt du chaud, parce que souvent, des douleurs chroniques. Et souvent, on a aussi des douleurs qui sont liées à des muscles, qui sont un peu contractures. Et tout ça, et c'est vrai que le chaud va permettre un peu de les détendre.
D'accord. Alors, on l'a dit en début d'émission, hein, Florian, vous êtes kiné du sport et ostéopathe. Est-ce que vous pourriez nous dire justement quelle est la différence entre un kiné et un ostéo ? On va voir lequel quand on a mal quelque part.
Alors, ça dépend où est-ce que vous avez mal et comment, mais les deux sont très complémentaires. En gros,
je me suis fait un tour de rein, j'ai très très mal au dos, hein, par exemple. Ça, c'est... Je vais voir qui plutôt alors ?
Tour de rein, très mal au dos, vous pouvez aller voir votre ostéopathe. Vous allez vous allonger sur la table, il va s'occuper de vous, il va vous débloquer, vous allez ressortir en étant mieux.
Par contre, j'ai mal à la cheville.
Alors, mal à la cheville parce qu'elle vient de se bloquer, l'ostéopathe va beaucoup vous aider. Si par contre vous voulez être tordu, vous avez fait une entorse et que du coup il faut la renforcer, là vous allez faire des exercices et vous allez le voir une dizaine de fois. Là c'est un kiné que vous allez voir pour la rééducation.
Moi quand j'étais enfant, on m'a souvent dit quand j'avais mal, pense à autre chose, ça va partir, t'auras plus mal. Est-ce qu'on peut réellement traiter une douleur, docteur Mamou, comme ça, de façon un peu psychologique finalement?
Bah, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous, quand vous étiez enfant, vous oubliez votre douleur?
Oui, c'est vrai.
En général, on l'oublie, et c'est vrai qu'il y a un énorme impact au niveau psychologique, et on a plusieurs façons de travailler dessus. Déjà, distraire les enfants, pour reprendre l'exemple de l'enfance.
Un peu de l'hypnose, en fait, non? On détourne l'attention.
Ouais, c'est un peu, on détourne l'attention, on court-circuite un petit peu le cerveau, on essaie de lui dire, t'inquiète pas, tout va bien, et c'est vrai que ça a un réel impact.
Ça me rappelle des mauvais souvenirs quand on a vraiment mal. C'est dur justement de distraire notre attention, mais je crois, Florian, que vous avez dans votre livre, hein, des exercices pour s'écarter un peu de la douleur. Quels sont-ils ?
Oui, bien sûr. Alors en fait, deux choses. La première, pour essayer de détourner l'attention, il vaut mieux avoir une activité plaisir, ludique, qui justement focalise notre attention. Personnellement, j'adore le coloriage zen. Ça paraît un peu ridicule, mais franchement...
C'est pas facile à faire pendant qu'on fait un footing et qu'on a mal à genoux. Hein.
Non, pendant qu'on fait un footing, c'est compliqué. C'est pour ça que les exercices que je donne dans le livre, c'est pas tellement pour se distraire. Cette fois, au contraire, c'est pour bien appréhender notre douleur, savoir exactement comment elle est circonscrite et comment la traiter. Donc, ces deux activités différentes, celle de l'oublier pour le mental et celle physiquement de la régler en faisant justement ces exercices.
D'accord, ça veut dire que quand on se concentre sur autre chose que notre douleur, que l'on porte concentration sur une activité quelle qu'elle soit, coloriage ou autre, vraiment la douleur diminue ?
Ah bah bien sûr, c'est exactement ce que Dr Mamoud disait tout à l'heure pour les enfants. Quand vous faites une activité et qu'ils sont pris dans leur jeu, ils oublient complètement tout de suite leur douleur. C'est la même chose pour nous, simplement. On joue peut-être pas avec autant d'intensité qu'on le faisait quand on avait 6 ans.
On a moins d'imagination, on reste focus sur notre douleur en général quand on est adulte.
Dr Mamoud, j'ai une petite question, parce que justement, ça fait quand même 2-3 ans que je fais plus beaucoup de sport qui fait transpirer, on va dire. Hein, mais j'ai envie de reprendre, j'ai bientôt 40 ans. Est-ce que je dois passer forcément par la case docteur avant pour faire un petit check-up ? À partir de quel âge c'est vraiment obligatoire d'aller faire ce bilan avant ?
Alors, en fait, on a des recommandations qui sont notamment faites par les cardiologues du sport, qui sont un peu différentes pour les hommes et les femmes, parce que les hommes, c'est à partir de 40 ans, les femmes, c'est à partir de 50 ans.
Ouh, ça va, je suis tranquille.
Donc, vous avez un petit peu de marge, en effet.
Julia, par contre, faudra pas tarder.
Oh, ça suffit. Hein. Mais moi, je suis en très grande forme, mais effectivement, je suis allée voir un médecin. J'ai bien fait quand même si je suis loin d'avoir 50 ans.
Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose, parce que donc là, les cardiologues disent à partir de ces âges-là qu'il faut faire un bilan cardiaque avec notamment une écho-cœur, un test d'effort, voire des fois un score calcique. Et après, on a aussi des critères qui nous permettent de vous dire est-ce qu'il faut aller voir un médecin ou pas.
Alors, du type.
Alors justement, la première chose, on va déjà parler de symptômes physiologiques. C'est-à-dire que si vous faites un effort, que vous avez des douleurs dans la poitrine, que vous avez du mal à respirer, que vous avez l'impression que le cœur s'emballe, qu'il va sortir de votre poitrine, ou que vous avez fait un malaise à l'effort, ça c'est un signe pour lequel
pas
il
faut... bon ça.
Non, ça c'est pas bon, il faut consulter. Si vous avez des antécédents familiaux, c'est-à-dire que si vous avez vos parents au premier degré qui ont eu un arrêt cardiaque, un infarctus du myocarde très jeune, ou un AVC, en général on dit avant 50 ans, c'est aussi un argument pour aller faire un bilan avec le cardiologue. De la même façon, on a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, qui sont l'âge dont on parlait.
La cigarette, j'imagine.
Exactement, la cigarette, le surpoids, l'obésité, le diabète, le cholestérol, la tension. Et
tous ces cas-là, on passe chez le médecin avant de reprendre une activité.
En tout cas, c'est bien de faire le point. Il y a aussi un élément qui est très important, qui est la sédentarité, l'inactivité physique. Ça, justement, c'est hyper important. C'est un facteur de risque cardiovasculaire bien connu.
Oui, on ne s'y remet pas comme une faux-folle après être restée comme Mélanie sur une
de la danse, quoi. Quand même, en attendant. Mais rien qui me faisait trop transpirer.
Alors, j'ai une question d'une amie hein, qui s'appelle Mélissa et qui vous demande quels sont les meilleurs sports à pratiquer si on souffre d'une lombalgie, docteur. Parce que c'est vrai que quand on a mal au dos, c'est infernal. Hein.
Ouais, le mal de dos, c'est vrai que c'est un grand problème en effet. En général, il y a deux éléments qui sont importants, qui sont le fait que souvent il y a une perte de mobilité, il y a une perte de muscle, de masse musculaire qui n'arrive pas à soutenir le dos. Alors l'objectif des sports, ça va être justement de améliorer ces deux éléments. Donc c'est vrai qu'on a la natation qui est reconnue comme étant le sport royal au niveau du dos.
Quand on n'aime pas nager, on fait quoi ?
Voilà, le problème, c'est faut aussi trouver des sports avec lesquels on a du plaisir.
Donc, est-ce que le gainage, c'est bon ça ? Parce qu'on me disait moi qu'il fallait renforcer le comment on appelle ça, les trucs que j'ai pas là, les abdos, voilà. Pour pas avoir mal au dos.
Ouais, le gainage c'est bien, on va faire du renforcement musculaire, ça va être en effet très bien. Après on a des sports tels que le pilates, le yoga, le tai chi qui sont aussi des sports qui sont très très conseillés quand on a mal au dos.
L'assurance maladie a un nouveau slogan qui dit contre le mal de dos, le meilleur des traitements c'est le mouvement, donc ils ont raison. On guérira plus vite d'une lombalgie si on se met en mouvement, si on fait du sport.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne guérit pas plus vite en faisant rien.
Ah oui.
Ça, il y a eu des études qui ont bien montré que des patients qui étaient arrêtés, qui faisaient plus rien, allongés toute la journée, n'étaient pas mieux plus rapidement que des patients qui reprenaient de l'activité. Donc, il y a aucune raison d'être en inactivité, de rester à rien faire.
Rien faire. Mais je crois qu'il existe aussi, Florian, des outils aujourd'hui pour soulager son mal de dos. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser ? Je crois qu'il y a des t-shirts posturaux. Qu'est-ce que ça vaut, ça, par exemple ?
Alors les t-shirts posturaux, je pense que ça fonctionne pas très bien parce que les gens en attendent d'être soulagés.
Ça fonctionne bien en publicité par contre, hein, on en voit pas.
En publicité ça cartonne ça, ouais. Par contre. Mais en fait, assez étrangement, les gens qui sont voûtés ont pas plus mal que les gens qui se tiennent très très droit. Donc du coup, le fait de faire tenir quelqu'un plus droit, même si c'est certainement plus joli, en fait, ça soulage pas le mal de dos. Par contre, un bon sommeil, donc du coup, d'investir dans une bonne laiterie, je pense que ça c'est essentiel.
Pourquoi ? Parce que c'est pour le mal. Là, vous parlez du mal de au cervical, par exemple.
Mal au cervical, mais en fait ça fonctionne pour toutes les douleurs parce que le sommeil c'est là où le corps récupère et du coup toutes ces tensions dont parlait docteur Mamou, elles s'accumulent et elles sont encore pires quand on est fatigué, stressé.
Et l'oreiller qu'il faut choisir, c'est lequel ? Est-ce que les mémoires de forme par exemple, c'est une bonne idée ? Qu'est-ce que vous en pensez vous ?
Alors ça c'est très intéressant, il y a une étude justement qui est sortie très récemment. En fait, il n'y a pas d'oreiller qui a une préférence, c'est-à-dire qu'un oreiller ergonomique qui coûte une fortune sera pas forcément mieux qu'un oreiller qui coûte rien du tout. Il faut que vous l'essayez, que vous vous sentiez bien avec.
On a une question de Karine sur Instagram pour vous. Mon fils de 12 ans fait énormément de sport, est toujours en activité, joue au foot 4 fois par semaine, s'entraîne à la maison quotidiennement sans se reposer. Je lui donne du magnésium pour éviter les blessures, ce qui fonctionne assez bien. Auriez-vous, bon, déjà est-ce que vous validez ça et est-ce que vous auriez d'autres remèdes, conseils qu'il pourrait prendre pour éviter les blessures pour un enfant de 12 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller, docteur Mamou ?
Le magnésium en soi, pas de problème. Hein. En effet, ça peut être indiqué, notamment c'est très indiqué quand on a des crampes. Souvent, on dit qu'il faut faire une cure de magnésium avec une bonne hydratation. Après, en fait, le meilleur conseil, je pense, c'est d'avoir un médecin du sport qui suit son enfant de 12 ans, justement, pour pouvoir l'accompagner dans sa préparation à son sport.
Oui, parce qu'un enfant qui fait quand même 4 fois par semaine, c'est déjà un enfant qui pratique à un niveau important, on est d'accord.
Ouais, c'est déjà une bonne pratique physique, donc ça, c'est déjà très bien. Et c'est vrai qu'en général, il y a tout un aspect de préparation physique, justement, pour faire le sport et pour éviter les blessures qu'il faut mettre en place, qui n'est pas toujours mis en place, notamment à cet âge-là, parce que...
On n'y pense pas pour les enfants. Je vais vous amener mon fils, je crois.
Avec plaisir.
Il y a aussi une autre douleur, on en parlait, Florian, tout à l'heure, qui peut être très invalidante. Ce sont celles qui touchent les cervicales. Pourquoi on en arrive à avoir mal au cou quand on fait du sport, notamment, parfois, je sais pas, moi j'ai mal au cou, là j'ai mal là, c'est les trapèzes, c'est ça, je sais pas comment ça s'appelle.
Ça, c'est les trapèzes exactement que vous montrez. Alors, c'est des douleurs qui sont très fréquentes. En fait, l'essentiel de ces douleurs, elles viennent du fait qu'on bouge pas suffisamment le cou. Il y a des gens qui ont des très 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 longs coups.
On va faire toute l'émission en bougeant le cou, du coup.
Voilà. Il y a des gens qui ont des très longs coups et eux, ils ont besoin de se le renforcer. Il y a des gens qui ont des coups très petits, très tassés, très épais, très musclés et eux qui ont besoin de le dérouiller.
Alors, comment on muscle son cou ?
Alors, on retombe dans ce dont parlait docteur Mamou avec la sédentarité, avec le fait de bouger plus régulièrement. Et du coup, les rugbymen le connaissent bien. Eux, ils ont des exercices pour renforcer le cou qui sont très toniques. On n'est pas obligé d'aller aussi loin que de s'accrocher des poids de 10 kilos sur la tête. Mais par contre, quand on veut se renforcer le cou, de prendre une serviette et de le tenir à la main et de résister, un peu comme on le montre dans le livre, ça fonctionne très bien.
Eh ben, on va bien rigoler.
Portez-nous des serviettes tout de suite.
Merci beaucoup à tous les deux. On va poursuivre avec nos objectifs sportif du jour. Et oui, on est très motivé en ce lundi matin. On a pris de bonnes décisions, résolutions, même très inspiré probablement par tous ces grands athlètes qui nous entourent ici en direct de Roland-Garros. Europe 1 est la radio officielle du tournoi. Je vous le rappelle, nous faisons d'ailleurs gagner 2 places pour la finale dames de Roland-Garros ce samedi. Il suffit de s'inscrire sur le site club-europe1.europe1.fr. Nos conseils sportifs reviennent dans un instant. Ne bougez pas. Enfin, si bouger, c'est bon pour la santé, mais restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Faire du sport, oui, mais comment éviter de se blesser? C'est notre question du jour en direct du tournoi de Roland-Garros. Et nous avons deux experts du sujet en studio avec nous. Florian Patalagoiti, kinésithérapeute du sport, ostéopathe et l'auteur de Mon programme sport et santé chez Larousse. Avec nous également le docteur Thomas Mamou, médecin du sport. Alors docteur Mamou, le sport, on l'a vu, est souvent le meilleur des remèdes pour soulager des douleurs, mais c'est aussi une solution pour vivre mieux. Mais on oublie qu'il y a quand même d'autres facteurs à prendre en compte, notamment la marche. Est-ce qu'on recommande toujours les fameux 10 000 pas par jour? Et est-ce que si on fait les 10 000 pas, on n'est pas obligé de faire du sport?
Alors, les 10 000 pas par jour, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est en fait une publicité pour une entreprise qui vendait un podomètre. Une entreprise japonaise qui en fait avait sorti ça, c'était au moment des JO de Tokyo, mais pas les récents, ceux de 1964.
Et ça repose pas sur une étude, un truc alors, un peu sérieux?
Bah du coup on a fait des études après. Ouais. Alors en gros, ce qui en ressort, c'est que à moins de 2500 pas par jour, globalement, c'est très négatif.
Ça va pour vous, Julien, vous êtes un peu au-dessus quand même. Bah, parfois le dimanche, la dernière fois j'avais fait 82 pas.
C'est oh peu. Mon Dieu.
82 pas, ça, c'est en effet un peu trop
c'est
léger.
Le lit, les toilettes. Les toilettes, le lit. Même pas les toilettes.
Hein. Ah non. C'est ça. Non, 82.
Pas de chambre, non, quand même pas, Julien. Bon, donc oui, 10 000, c'est quand même un bon objectif. Mais alors, si 10 000, déjà 8 000, c'est bien. Quoi.
10 000, c'est un bon objectif, mais après, on s'est rendu compte qu'au-delà de 7 500 pas, il n'y avait pas plus de bénéfices par rapport à la santé.
Ah, bon, je m'arrête à 7 000 alors.
7 500. Après, si vous avez, par exemple, un surpoids ou quoi, le fait de faire plus de pas, ça va augmenter la dépense, donc du coup, ça va vous permettre de perdre en effet.
Et si on fait en gros plus de 8 000 pas par jour, on peut s'abstenir de faire du sport? Est-ce qu'on peut considérer que c'est du sport?
Alors, on considère que c'est du sport, après, ce n'est pas un sport qui est suffisant, parce que quand vous faites de la marche, vous faites toujours le même mouvement, vous travaillez toujours les mêmes choses. Et donc, du coup, ce n'est pas suffisant. Il faut le compléter avec d'autres activités, de façon justement à avoir une prise en charge un peu globale.
Combien de fois par semaine, dans l'idéal, si je suis plutôt en bonne santé, j'ai entre 39 et 46 ans, qu'est-ce que je dois faire? Plus âgé aussi.
Ouais, les pas, c'est tous les jours, clairement, parce qu'on sait qu'on ne peut pas compenser les pas. On ne peut pas faire un jour 20 000 pas et l'autre jour zéro pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Après, on recommande quand même de faire 2 à 3 séances de sport d'intensité modérée par semaine.
Bon, 2 à 3, ça va. Ouais, c'est pas mal déjà. Hein. Florian, si on n'aime pas le sport, il y a des gens comme ça, franchement, ils ne voudront jamais en faire. Vous proposez dans votre livre d'augmenter notre NEAT, N-E-A-T, c'est quoi? NEAT, NEAT, je ne sais pas comment on dit. Ça veut dire quoi et c'est quoi?
Ouais, c'est NEAT. Alors, c'est un peu pour faire l'américain parce que ça veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est l'idée de dépenser des calories mais sans faire de sport.
Alors, comment on fait? Dites-nous tout vite, vite, vite.
Alors, c'est très facile. C'est tous les conseils qu'on connaît déjà et parfois qu'on trouve un peu gnangnan. Par exemple, de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, d'aller au travail en vélo, etc. Et en fait, on sous-estime très largement la force de ces petites habitudes. Bien. Par exemple, j'ai développé une application physio qu'on vend aux entreprises pour que les gens puissent simplement avoir plus d'activité dans le cadre de leur travail. Et ça fonctionne super bien, c'est très simple.
Mais par exemple, je sais pas, garer sa voiture à 500 mètres de son rendez-vous, c'est déjà pas mal, non?
Alors, garer sa voiture à 500 mètres, c'est excellent. En fait, c'est simple quand on calcule 500 mètres aller le matin, 500 mètres aller, 500 mètres retour le soir. On marche 1 km par jour, donc 365 km à la fin de l'année qui ont été marchés. Ça fait 2 kilos en moins sur la balance, 55 calories par jour. Et en fait, quasiment sans y penser, ça prend 5 minutes. 5 minutes le fait d'y aller. Et en fait, c'est énorme. Ça crée une différence quand on prend l'habitude de le faire régulièrement.
Mélanie, vous avez fait ça? Vous descendez
régulièrement? Mais moi, j'ai acheté une montre qui fait le podomètre. Hein,
et mais vous descendez.
Moi, je fais mes 10 000 tous les jours. Hein, ça, c'est évident.
Et si descendez
je
pas du fait, bus.
Je descends plutôt, deux stations plus tôt, et je marche. Qu'il pleuve, qu'il vente. Enfin, voilà, je fais du NEAT. Alors finalement, c'est ça.
Exactement.
Je fais pas vraiment du sport, ça, je
non,
peux pas mentir.
Non, mais vous augmentez votre NEAT. Oui. Et clairement, à la fin de l'année, ça fait une différence qui est énorme. Et du coup, quand, à la fin de l'année, mais même à la fin de toute une vie, d'avoir pris des bonnes petites habitudes comme ça, même une ou deux qu'on change dans son quotidien et qu'on implémente facilement.
Toujours
l'escalier. Game changer, chaque pas compte.
Bon. Si on se met à faire un sport, ça m'arrivait souvent, mais je pense que ça arrive à beaucoup, on est super motivé au début, hein. Les 15 premiers jours, on y va à fond. Et puis tout d'un coup, bah, il y a un petit coup de flemme, voilà, elle est là, et c'est difficile de se motiver. C'est normal quand même cette perte de motivation qui vient quand même assez vite, docteur Mamou. Hein.
La perte de motivation, ouais, c'est tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive même aux sportifs professionnels, aux sportifs de haut niveau. Et en fait, je pense que le plus important, c'est d'essayer de casser un peu la routine, justement dans l'activité physique. Faut pas hésiter à varier un peu le sport, c'est-à-dire faire une semaine, ne pas faire le sport habituel, faire autre chose pour justement changer un peu d'air, changer l'état d'esprit.
Oui, parce que parfois la salle de gym toujours la même, les mêmes exercices, c'est répétitif quand même.
C'est très répétitif et c'est vrai que souvent, ben, c'est un peu lassant et c'est pour ça que faut pas hésiter une fois à faire un cours collectif, par exemple, pour justement voir un peu une nouvelle ambiance.
Et ça veut dire que la flémingite aiguë, ça se soigne, en fait, en changeant d'horizon, en fait.
Mais d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous ne croyez pas que notre cerveau, il s'habitue à force de faire toujours le même sport? Est-ce qu'il ne faut pas lui casser ses habitudes à celui-là?
Bah en tout cas, c'est une façon de casser la routine et justement d'éviter d'avoir la flemme.
Ouais, pas mal. Ce qui est vachement à la mode en ce moment, ce sont ces séances de sport très courtes. Florian, vous savez, les fameux HIIT, H-I-I-T. Il y a vraiment une différence pour notre santé avec ces séances très courtes, 12, 14 minutes maximum, même peut-être parfois moins, et une séance longue, une activité modérée. C'est quoi la différence entre les deux et quels sont les bénéfices de l'un et de l'autre?
Alors les deux ont des bénéfices évidents sur la santé, sur le cardio, mais en plus l'avantage du HIIT, donc du coup ces séances très courtes, c'est que bon, elles sont pas très chronophages, donc du coup
facile à caser dans l'agenda, ça
voilà,
c'est un gros avantage.
Un énorme avantage, et en plus quand on va suffisamment haut en intensité, donc on parle quand même de 80 à 100%, c'est-à-dire qu'il faut s'envoyer sur une de ces séances, mais après notre métabolisme il est augmenté pendant 24 à 48 heures, donc du coup on brûle beaucoup plus de calories qu'en une heure, donc c'est vraiment canon. La seule chose, c'est que faut déjà être très entraîné, parce que pour s'envoyer sur 100%, même disons 80%, quelqu'un qui a jamais fait de sport ou qui en a fait peu, risque d'exploser, de se blesser tout de suite. Donc c'est une activité qui est canon, mais qui est vraiment recommandée pour les sportifs
actuels. Là, pour faire du HIIT, donc on va solliciter très très fort le muscle cardiaque. On est docteur Mamou, on est d'accord, il faut vraiment avoir fait peut-être un check-up avant quand même, hein.
Bah, en tout cas, c'est clairement recommandé. Et puis, faut surtout y aller tout de suite. C'est ce qu'on a parlé de tout à l'heure quand on parlait de progressivité. Là, clairement, on est dedans.
Mais après, on s'améliore vachement, moi, je trouve. J'ai fait du HIIT, c'est super. On est meilleur après en endurance. Vous confirmez?
Oui, c'est un peu le principe de l'entraînement fractionné, où justement, en fait, ça permet d'augmenter la capacité aérobie et la VO2 max. Et c'est clairement indiqué. On parlait du marathon tout à l'heure. Dans le marathon, sur les préparations, il y a de l'endurance fondamentale et du fractionné.
Alors, on a Robin sur Instagram qui nous dit « J'ai un IMC de 32, je suis en obésité. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire du sport ou est-ce que je dois d'abord maigrir et ensuite me remettre au sport, docteur ?»
En fait, il faudrait faire les deux, c'est-à-dire que l'on sait que le fait de faire de l'activité physique, le fait de faire du sport, ça va permettre de perdre du poids. Au départ, il ne va pas s'en rendre compte sur la balance pour la simple et bonne raison qu'on va avoir une modification des différentes masses qu'il y a dans le corps, de la masse grasse qui va se transformer en masse musculaire.
Et le muscle, ça pèse lourd.
Et le muscle, ça pèse. Donc, c'est pour ça que la balance, c'est pareil.
Je comprends mieux.
Mais après, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas, notamment sur un patient qui a un IMC à 32, il ne faut pas dissocier le sport de l'alimentation. C'est indispensable d'avoir aussi une hygiène alimentaire, justement pour essayer d'adapter les apports caloriques.
Mais peut-être pas courir tout de suite, par exemple.
Peut-être pas courir tout de suite. En tout cas, il faut déjà adapter les activités physiques, parce que le patient qui est en obésité, parce que là, on va parler d'obésité avec un IMC à 32.
Il ne va pas faire du jogging.
En tout cas, il ne va pas pouvoir faire une course à pied avec un fractionné où il va aller à 100% de son effort, parce qu'il risque de se faire mal, justement. Donc, il faut adapter les efforts. Éventuellement, il faut en discuter avec son médecin pour pouvoir l'accompagner et puis voir quelles sont les activités qui lui plaisent. En général, on recommande plutôt de faire des activités qui sont portées, justement, pour éviter de s'abîmer les articulations.
Genre piscine,
genre vélo, genre elliptique, ce genre de choses. Et par contre, on demande de faire aussi des activités de renforcement musculaire pour avoir des contraintes mécaniques, pour pas que le corps s'habitue à être tout le temps en activité portée.
Bon, d'ailleurs, moi, je m'inquiète beaucoup pour Julia. Hein. Florian, trop de sport, c'est pas bon non plus. Julia, faites attention, franchement. Vous êtes pas du tout pour ces gens qui en font tous les jours, sans pause. Pour vous, c'est primordial de s'accorder des temps de récupération. Pourquoi c'est si important?
Alors, ça dépend aussi du niveau de l'activité physique.
Julia, c'est haut, hein, c'est haut. Non, mais
parfois, quand je suis en mode guerrière, oui, je peux en faire tous les jours. Après, je m'arrête pendant 3 semaines, évidemment, parce que je tiens pas mais c'est pas
ça le temps de récupération.
C'est ça. En fait, l'idée, c'est que quand on vise la performance, donc on commence à en faire en très haut niveau comme vous, et qu'on en fait régulièrement tous les jours, quand on regarde les athlètes ici à Roland-Garros, il n'y en a pas un seul qui s'entraîne tous les jours, alors que c'est des athlètes qui poussent sans arrêt leur corps au bout du bout pour chercher la performance.
Il faudrait laisser combien de temps entre chaque entraînement, par exemple?
En général, on recommande au moins 1 à 2 jours grand minimum de repos dans la semaine. Et quand on parle de récupération, on a des techniques pour pousser encore plus leur peau. Mais il faut imaginer quelqu'un qui se donne à 100% et le lendemain à 100%. Vous voyez déjà comment vous êtes fatigué, que vous avez
cramé,
mal.
Cramé,
courbattu. Le lendemain encore et encore et encore, c'est évident que le corps va exploser à un moment donné si on lui accorde pas des moments de repos pour récupérer.
Et justement, on récupère comment?
Des bains glacés pour Julia?
Alors les bains glacés, c'est canon. On utilise plein de techniques, les collations de récupération avec des recettes, des massages, nous les kinés qu'on fait pour améliorer la circulation et l'inflammation. Les bains froids, c'est super, mais faut aimer, parce que si vous détestez ça,
je déteste.
Dans ce cas-là, changez pour un massage.
Je préfère.
Ça c'est pas mal. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés pour à la fois nous motiver et nous donner vos conseils qui nous permettront de ne plus avoir l'excuse de la blessure pour rester sur le canapé. Et puis je vous rappelle que nous vous faisons gagner 2 places pour la finale
Dames de Roland-Garros samedi. Il suffit de vous inscrire sur le site clube1.europe1.fr. Je répète, clube1.europe1.fr.
Eh bien Mélanie, on va maintenant passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord Soizic Belin, elle aussi d'humeur sportive. Elle a testé pour nous le surf indoor, le surf en intérieur. Je sens que ça va nous rafraîchir. Et puis on va écouter aussi les conseils mode de Sophie Braffman. Elle va nous proposer un total look tennis aujourd'hui. Tous ces bons conseils, c'est dans très peu de temps sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, en direct de Roland-Garros. Nous sommes avec vous jusqu'à midi pour vous faciliter la vie. Alors à présent, on va ouvrir notre tour de table des tendances. Il y a déjà Sophie Braffman qui est en studio avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Mélanie.
Alors je crois que toutes les petites balles jaunes qui nous entourent et qui rebondissent autour de nous vous ont pas mal inspiré aujourd'hui.
Mais vous allez voir qu'elles servent, on peut faire des vêtements avec. Et moi ce que j'adore, c'est les pulls roulés couleur saumon là sur les épaules. Hein, on a vu ça toute la matinée je crois.
Ouais, c'est beau.
C'est très joli.
Allez bon, vous restez avec nous Sophie parce que on va commencer avec la chronique de Soizic Belin. Bonjour Soizic.
Bonjour Mélanie.
Alors il paraît que ce week-end vous avez fait du surf.
Et ça, j'ai taquiné la vague comme on dit. Je trouvais ça d'autant plus intéressant de vous venir vous en parler ici aujourd'hui puisque nous sommes en direct de Roland-Garros. Hein. C'est très logique. Le surf, hein. C'est quand même un imaginaire le surf. Hein.
Ah ouais.
Ce corps musclé qui scintille au soleil, cette odeur entêtante mélange d'iode et de monoï, ce sable qui vous brûle légèrement les pieds.
Oui.
Oui, là, je m'emballe un peu.
Calmez-vous.
Ouais. Non, parce que, en fait, j'avais pas le temps de me rendre sur la côte atlantique, alors j'ai décidé de faire ça à Paris.
Du surf à Paris? Et mais vous êtes une grosse mytho, vous, ou ça, sur la Seine?
Eh bien, figurez-vous qu'il existe un lieu, une sorte de hangar situé en plein cœur de Paris. Ce n'est pas une piscine, mais une vague de 16 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur, indoor, donc en intérieur, qui permet de pratiquer un sport légèrement différent du surf. Pour une raison simple, ici, la vague est artificielle et statique. On écoute Maxime Baudouin, un des managers de Wave in Paris, nous expliquer comment ça fonctionne.
Donc la vague, c'est une structure qui est faite d'une toile tendue et donc l'eau est projetée depuis le bas de cette toile tendue vers le haut qui permet donc avec l'inclinaison de la toile de surfer. Donc c'est pour ça que c'est une vague statique où le surf se pratique sur une planche qu'on appelle le flowboard qui est une petite planche.
Alors en réalité, il y a deux pratiques, le flowboard mais aussi le bodyboard.
Alors moi je vois très bien ce que c'est, mais est-ce que vous nous expliquez la différence?
Alors le bodyboard, vous êtes allongé sur votre planche, mais vous pouvez vous mettre assis ou à genoux, hein, c'est plus stable, plus accessible. Hein. Et la seconde, eh bien vous êtes debout, enfin du moins vous tentez de le rester, vous jouez d'équilibre avec les ondulations de la vague. Personnellement, j'ai choisi la première option.
Alors comment ça se passe? Je sais pas, ce sont des séances, faut réserver avant?
Alors faut réserver avant parce que ce sont des séances, elles sont prises d'assaut, c'est des créneaux d'une heure. Alors passage par le vestiaire pour enfiler votre maillot. Mesdames, on évite le bikini, hein. On préfère le maillot une pièce pour éviter les accidents de topless inopinés.
On n'est pas à Cannes, hein,
zut. Non. Et puis il y a un sas entre le vestiaire et la salle où se trouve la vague, dans lequel vous allez visionner une petite vidéo de mise en garde explicative très succincte. Et puis ensuite, on the wave, hein. L'instructeur est là pour gérer la séance, il vous guide, il vous challenge et il sent si vous êtes à l'aise. Et c'est 45 minutes d'éclate de sport parce que oui, c'est physique, hein. Il faut réussir à gainer, à se maintenir parce qu'il y a la pression de l'eau, il faut garder l'équilibre et puis on peut se lancer dans des figures si on le souhaite, évidemment.
Et si on est un surfeur aguerri, est-ce que quand même on peut prendre du plaisir avec cette vague particulière?
Justement, c'est la question que j'ai posée à Maxime Baudouin, manager de Wave in Paris.
On y trouve énormément de plaisir. On retrouve forcément les sensations de glisse sur l'eau qui sont communes à plein de sports de glisse, dont le surf. Mais c'est un sport différent puisque cette planche n'a pas d'aileron, elle est plus petite et elle permet d'accélérer très vite, de faire des tricks, des mouvements en sautant un peu au-dessus de l'eau et procure énormément de plaisir.
Alors ce que j'ai appris également, c'est que ce fameux flowboard, c'est une véritable discipline à part entière, en parallèle du surf. Maxime nous en dit plus.
Donc le flowboard, même si je pense que ça manque de reconnaissance, de visibilité en effet à grande échelle et d'organisation au niveau international, le flowboard est un sport à part entière, différent du surf, qui connaît des compétitions nationales ou internationales en Asie, aux États-Unis et quelques-unes en Europe.
Ça a l'air génial, Soizic, mais rassurez-nous, c'est pas seulement parisien. On peut faire du surf à l'intérieur dans d'autres villes.
Dans d'autres villes, exactement. Il y a des vagues artificielles. Il y en a plein. Petite précision, il y a plusieurs technologies, plusieurs créateurs de vagues, hein, si vous voulez. Flowrider, Hydrostadium, Wave Stadium. Il y a des vagues artificielles en milieu naturel, mais aussi en intérieur, donc comme celle-ci, statique ou déferlante. Bref, c'est un marché en pleine expansion avec des acteurs multiples. Donc, à vos carnets, chers auditeurs, prenez note. Voici quelques adresses de surf indoor, donc en intérieur. Nord. Vous avez Wave Island en Provence, dans le parc aquatique de Monteux. De Glassy Eyes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Wave Surf Café à Bordeaux. Niki Surf à Marseille. La Vague à Échirolles. Et City Surf Park à Dessiné-Charpieu à Lyon.
Bon, moi j'ai quand même une petite question que je me pose. Est-ce que c'est très écolo tout ça ?
Eh bien, c'est peut-être là-dessus que je finirai cette chronique. Je pourrais même aller plus loin. A-t-on besoin de faire du surf lorsque l'on est parisien ? Ne peut-on pas attendre une destination qui s'y prête ? Doit-on faire du ski lorsque l'on est au Qatari ? À l'heure où l'on nous vend le locavore, vous savez, manger local, manger bon, manger bio, peut-être faudrait-il revoir le bilan carbone de certaines de nos activités. Mais sachez que pour ce qui est de Wave in Paris, ils ont mis le paquet sur le matériel écolo, sur une énergie verte, et l'eau est évidemment en circuit fermé.
Mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Soizic pour cette découverte. On va peut-être aller mouiller le maillot très bientôt avec Mélanie, mais avant ça on va quand même écouter les conseils très branchés de Sophie Braffman, parce que je crois qu'on n'a pas trop le bon look aujourd'hui en direct de Roland-Garros. Enfin, moi je me suis mis en bleu marine,
ouais, et Mélanie en blanc. Ouais.
On aurait dû mixer nos deux tenues.
C'est pas tout à fait les couleurs du Grand Chelem, mais c'est pas mal, hein, c'est déjà un bon début. Alors ce qui est intéressant avec Roland-Garros, c'est pas comme le Festival de Cannes, où là ça vient de se finir avec des looks totalement improbables, hein. Big up pour le ventre arrondi de Nabila et ses fesses apparentes dans une robe absolument...
Vous l'avez la robe, c'est le ventre arrondi.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on peut être mère, être extrêmement sexy et dévoiler ses fesses sans aucun
problème.
Et on a
le droit, même s'il n'y a pas de bébé dedans, d'avoir un ventre arrondi ou pas.
Oui, c'est moins glamour là tout de suite, mais ça passe quand même. Hein, vous avez quand même le droit de le faire. Alors ici, on a quand même un lot de stars, de looks incroyables et sur tapis ocre. Alors c'est beaucoup plus sobre que Cannes, Roland-Garros. Il suffit de regarder. Là, voyez, nous on a une vitre, on voit quand même pas mal de choses. On est plutôt sur une thématique, je dirais, pantalon blanc, des visières, très important la visière pour Roland-Garros, et le pull rose, couleur un peu
de paille, hein, aussi.
Alors le chapeau, c'est l'accessoire ultime, Mélanie, puisque c'est là que vous allez vous faire remarquer et peut-être vous faire photographier. Donc n'hésitez pas à avoir un chapeau, même ridicule, hein, un grand chapeau. Au moins, on verra que vous avez beaucoup de style.
Et la casquette, non, c'est pas bien.
La casquette, c'est pas mal, mais la visière, c'est encore mieux. Ouais. Alors attention au combo visière plus lunettes de soleil, ça fait un peu beaucoup, hein, des fois. Ouais. Hein, c'est un peu comme bretelle plus ceinture.
Je vais rentrer chez moi, je vais me rhabiller, mais comment justement je reviens pour...
Vous avez un petit look Lacoste quand même, petit peu.
Alors, c'est ça, Julia, vous vouliez savoir comment vous habillez exactement pour être tout à fait dans le style urbain chic de Roland-Garros. Alors on commence avec le polo, bien sûr, je crois que c'est un incontournable. D'ailleurs, Romane, qui est avec nous aujourd'hui en studio, a vraiment le look absolument idoine pour Roland-Garros.
On vous le mettra sur les réseaux sociaux, le look de Romane.
On va le poster parce qu'il est vraiment parfait. Alors ce petit polo croco qu'on connaît très bien, hein, c'est un grand classique du vestiaire sportif urbain et chic. L'année dernière, on a vu ce polo sur Mel Gibson, Jean Dujardin, en passant par Claude Lelouch ou Lucas Bravo, vous savez, le Frenchie d'Emily in Paris qu'on aime beaucoup. Alors pour le Roland 2022, voilà, on a un classique polo qui se refait une jeunesse, puisqu'on l'a vu en débardeur blanc avec le petit croco porté par Estelle Lefébure, et là en version un peu asymétrique. Donc moi je me dis que ce polo, on peut le revisiter et le moderniser un tantinet. On a vu aussi des suites aux couleurs du Grand Chelem. Donc qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Et bien ça va être des tons ocre, des tons saumon, un peu de vert aussi. Oui, bonjour messieurs, on est là, on dit coucou nous aussi. On dit bonjour au public qui nous regarde. Et voilà, donc du coup je pense qu'il faut absolument bouger un peu ce polo et le moderniser un petit peu.
Et la jupe plissée, est-ce que c'est encore tendance?
Ouais, joli en tout cas. Ouais.
Vous aimez la jupe plissée écolière, celle qui est un peu courte, façon manga japonaise.
C'est qu'on ne peut plus mettre du tout à nos âges.
On a le droit avec les petites soquettes blanches. Oui, un petit côté un peu ridicule. Moi, je suis comme vous, Julia. Je dis non à la jupe plissée courte, mais attention, oui à la jupe plissée longue. Soleil. Alors, c'est la version soleil, donc ce n'est pas du tout mémérisant. Attention, parce qu'effectivement, quand on pense jupe plissée, on se dit qu'il y a un petit côté grand-mère.
Mais longue jusqu'au pied ou...
Ah oui, vraiment très longue, avec une paire de baskets blanches, bien évidemment, une paire de sneakers. Donc, c'est très chic. On l'aperçoit auprès des people aussi. Là, on a eu des très jolies tenues. Alors, ce qui peut être beau, c'est de porter cette jupe plissée avec un débardeur pour casser le côté un peu strict de la jupe plissée. Par exemple, éviter le chemisier à fleurs.
Les baskets, c'est bien pour...
Alors, les baskets, c'est génial. Et c'est là où je vous ai apporté une petite surprise, les filles, puisque nous sommes à Roland-Garros. Et il y a plein de balles de tennis qui se perdent. Eh bien, cette marque a eu l'intelligence. Donc, je parle d'une marque française, Fago, qui recycle les balles de tennis et qui les transforme en semelles de chaussures. C'est pas mal, ça.
Elles sont pas jaunes, les chaussures.
Alors, pas du tout. Voilà.
Elles sont crues, on va dire, avec des lacets dorés très mignons.
Ça, c'est la version, le modèle femme. Donc,
des sneakers, hein.
Exactement, des sneakers complètement qu'on postera. Et on l'a version modèle homme aussi.
C'est très joli.
Voilà.
Donc, combien de balles pour créer?
Alors là, il y a une douzaine de balles, je crois que c'est ça. Ouais, exactement.
Ça coûte que 12 balles.
Non, alors ça coûte pas que 12 balles. On aimerait bien, mais ça serait quand même pas mal. Mais sachez qu'avec une balle, on peut quand même créer 2 à 3 paires de semelles. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, c'est quand même, je veux dire, ça va vite. Et puis surtout, ça se recycle.
Et ça vaut combien de balles pour le
le coup.
Là, plutôt autour d'une centaine d'euros. Mais c'est pas mal quand même.
C'est vachement bien. On a compris les baskets, la jupe lissée, la visière. Mais voilà. Avant tout, Roland Garros, c'est une question d'attitude, me semble-t-il.
Ah oui, bien sûr. Alors, on est obligé de penser à Tsonga, hein, sa danse des pouces. Vous vous rappelez? Donc là, on ne le reverra plus puisque voilà, il a fait ses adieux dans une tenue noire, d'une grande sobriété. D'ailleurs, on était tous un peu tristes. Il y a Nadal aussi, hein, qui a quand même pas mal d'attitude. On est plutôt sur quelque chose de, on se gratte beaucoup. Vous voyez, on se touche comme ça. Exactement. Il y a des petits tics et des petits tocs. Mais puisque vous parlez d'attitude, Julia, je reviens sur le chapeau dont parlait Mélanie, puisque là, le chapeau, c'est vraiment l'accessoire mode ultime. Alors, attention. Pas de capeline hein, pour Roland Garros, parce que la capeline, ça peut vous donner un air un peu d'aristo défraîchi au bal des débutantes. Donc, on va être plutôt sur une visière éventuellement ou un panama. Là, c'est vraiment le chapeau idéal. C'est un chapeau de paille, voilà, très chic, Julia, avec un ruban à gros grains tressé hein, avec la feuille d'un palmier d'Amérique. C'est pour ça que ça s'appelle ainsi. Et du coup, vous allez avoir un côté un peu mystérieux avec le panama et surtout, vous allez éviter le problème de l'insolation. Quand on est à Roland Garros, on a eu des problèmes de pluie aussi également. Et les lunettes de soleil, alors les lunettes pour des lunettes un peu stars. Regardez, je vous les montre comme ça. La lunette papillon noire. Voilà, vous l'avez vous en un peu plus.
Mais non, j'ai pris les mauvais, j'ai pris les carrés.
Les carrés, oui, mais alors on est sur de la lunette oversize, hein, un côté un peu 70.
Et il faut que je vous décrive quand même pour nos auditeurs qui ne nous voient pas en vidéo sur Europe1.fr. Vous avez des lunettes papillon, c'est-à-dire comment on décrit cette forme?
Très ovale, en forme papillon, très arrondie, qui allonge le regard et donne un air de star même quand on n'en est pas une. Hein, regardez-moi. Et sinon, vous avez pour Julia, c'est de la très très grande lunette oversize. Vous savez, ces grandes lunettes un peu carré, très années 70.
Et ça, c'est Roland Garros, ça?
Bah ça c'est très Roland Garros.
Vous nous avez pas parlé de la dernière paire de baskets, il y en a une troisième là. Qu'est-ce que c'est ça rapidement?
Bah en fait, pour vous montrer qu'on peut être en sneakers blanches et être très 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 écolo, eh bien là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est pas des balles de tennis, c'est des capsules Nespresso.
Oh.
C'est pas mal, incroyable. Ça aussi on sait pas quoi en faire. Et là c'est 12. Alors pardon, pour la balle de tennis, c'était pas 12, c'était 12 capsules Nespresso. D'accord. Pour celle-ci, alors qu'avec l'autre c'est une balle de tennis pour faire 2-3 semelles, là 12 capsules et ça permet de sortir une paire de sneakers blanches.
Et ça coûte à peu près dans une centaine d'euros.
Exactement,
aussi
on est autour d'une centaine d'euros à chaque fois, mais bon ça je pense qu'une paire de baskets, ça se garde quand même longtemps. On va pas les mettre qu'à Roland-Garros, c'est très intemporel, donc c'est parfait.
Merci beaucoup Sophie pour ce total look Roland-Garros. Merci pour tous ces conseils. Voilà, merci à tous d'avoir été à nos côtés ce matin. Bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous serons évidemment de retour demain. Julien, on va s'intéresser à quoi demain?
Eh bien Mélanie, si je vous dis voir rouge, sortir de ses gonds ou péter un câble, eh bien les expressions sont nombreuses pour décrire un sentiment intense que l'on a tous connu, la colère. Dans Bien fait pour vous, on va vous expliquer d'où nous vient cet état, comment garder notre calme même dans les situations les plus extrêmes, et on va aussi se demander si après tout la colère n'a pas aussi ses bons côtés.
En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre c'est Europe Midi avec vous Romain Desarbes. Bonjour Romain, quel est le programme?
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes les deux. Le programme d'Europe Midi aujourd'hui, bah évidemment c'est retour d'expérience, retour sur ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que vous avez eu honte de ce qui s'est passé? Vous appelez le 3921 et on en parlera, vous passerez à l'antenne. On sera également avec Ludovic Mendès, député La République En Marche de Moselle, et Guillaume Guérin qui est président de Limoges Métropole, vice-président de l'Association des maires de France et qui est républicain. Voilà le programme, à tout de suite.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.